Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité ce soir, le président de la Confédération Suisse a rencontré ce dimanche le leadership de la MONUSCO à Goma pour comprendre le travail de la mission onusienne en RDC en ce qui concerne la protection des civils dans son ensemble. La province du Sud-Ubangi attend du programme de développement local des 145 territoires, 43 infrastructures, dont 23 écoles primaires, 15 centres de santé et 4 bâtiments administratifs. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu hier à Gemena. Paul Matendo, notre envoyé spécial dans la zone, nous en dira plus tout à l'heure. Le tout premier conseil de l'université de Kindu s'est tenu du 11 au 14 avril depuis l'ouverture de l'année académique en cours. L'état des lieux et la perspective d'avenir de cette institution universitaire. Nous en parlons ce soir avec le professeur Deogracias Kimenya Moussaïloa, recteur de l'université de Kindu, qui est l'invité du journal. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bonsoir. Arrivé ce dimanche avant midi à Goma, en provenance de Bukavu au sud Kivu, le président de la Confédération Suisse a rencontré le leadership de la MONUSCO. Cette réunion de près d'une heure s'est tenue au quartier général de la MONUSCO Goma. Selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diane, le président de la Confédération Suisse a voulu comprendre le travail de la mission onusienne en RDC en ce qui concerne la protection des civils dans son ensemble. Kassim Diane revient sur ses échanges dans ses propos recueillis par Rosalie Zawadi.
La Suisse est un partenaire important de la RDC, mais aussi des Nations Unies, en tant que membre aussi du Conseil de sécurité et qui va prendre la présidence du Conseil le mois prochain, la présidence tournante. Donc il s'agissait de leur expliquer un tout petit peu ce que nous faisons en matière de protection des civils, en appui évidemment au gouvernement et aux forces de défense et sécurité. Donc, aussi bien sur le plan de la protection physique avec le dispositif militaire de la MONUSCO, mais aussi l'engagement communautaire et le plaidoyer que nous faisons avec le gouvernement pour la neutralisation des groupes armés. Donc c'était en fait un échange de questions-réponses aux questions que la Suisse a par rapport à la protection des civils. Et je peux vous assurer que, en tout cas, le président repart bien informé, en tout cas, du niveau de la coopération qu'on entretient avec le gouvernement congolais sur ces volets-là. Et je crois qu'il était pour nous donc un grand honneur de le recevoir dans notre milieu, ensemble avec les collègues de la force d'appréciation.
Notons également que le président de la Confédération Suisse, Alain Berset, a rendu hommage ce dimanche à Goma au casque bleu tombé sur les champs d'honneur en RDC. C'était au quartier général de la MONUSCO. Accompagné par les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général de l'ONU en RDC, le président de la Confédération Suisse a déposé une gerbe de fleurs au mémorial du quartier général de la MONUSCO. Rosalie Zawadi revient sur la solennité de ces gestes.
Le président de la Confédération Suisse s'est incliné devant les mémorials érigés au sein du quartier général de la MONUSCO pour honorer les casquets bleus qui ont donné leur vie pour la paix en RDC. Pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, Kassim Diagne, c'est un hommage aussi pour les victimes congolaises de la guerre.
Vous savez, depuis des années que la MONUSCO est là, nous avons malheureusement perdu beaucoup de collègues, aussi bien du côté de la force que du côté de la police, avec justement aussi des victimes congolaises. Donc c'était un hommage non seulement au casque bleu, mais à l'ensemble des victimes qui sont tombées sous les atrocités des groupes rebelles et aussi d'autres groupes armés.
Après cet hommage, le président de la Confédération Suisse a visité les centres des opérations de la MONUSCO au Nord Kivu. Créée en février 2022, cette structure a pour objectif de coordonner les opérations conjointes MONUSCO-FRDC visant à arrêter ou limiter les attaques des groupes armés. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Pendant ce temps, les chefs de bureau de la MONUSCO en Ituri condamnent les massacres des populations civiles par les groupes armés dans les territoires de Djougou. 44 personnes, dont 19 enfants, ont été tuées vendredi par la milice Codeco à Kilo. Karna Soro demande aux miliciens des divers groupes armés de revenir à la raison afin de mettre fin à la souffrance de la population innocente. Il ajoute que la MONUSCO travaille sans relâche au quotidien aux côtés des FARDC et du gouvernement congolais pour restaurer la paix. Il appelle tous les Ituriens à ne pas se tromper d'adversaire et à travailler avec la MONUSCO pour la paix et la cohésion en Ituri, alors qu'un appel à manifester ce lundi contre la mission de l'ONU a été lancé par un député national élu de Bounia. Il a été joint par Isaac Raymond.
Nous profitons pour présenter toutes nos condoléances aux familles des victimes.
parmi ces 44 personnes massacrées figurent 19 enfants innocents. Nous condamnons avec la dernière énergie ces massacres et nous en appelons à la conscience de tout un chacun. Il est grand temps que ces massacres s'arrêtent. Je rappelle que nous avons 6 bases avancées à Drodro, Amé, Ro, Fataki, Jina, où nous travaillons aux côtés des FRDC au quotidien pour protéger plus de 800 000 déplacés. Je rappelle encore que hier, les troupes de la MONUSCO, du côté de Ndalia, à quelques kilomètres de Erengeti, ont appuyé les FRDC pour repousser les miliciens des ADF. Il y a quelques jours, nous avons travaillé aux côtés des FRDC pour repousser les ADF du côté de Lolwa. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper ici de combat. Par contre, il faut que les jeunes et les autres aient le courage de dire à ces jeunes-là qu'il faut arrêter. Il est temps d'arrêter.
Par ailleurs, un député honoraire national de l'Ituri plaide pour le renforcement de l'autorité de l'État dans toutes les entités territoriales de cette province afin de permettre à la population de vivre en paix. Donatien Kani a fait ses plaidoyers ce week-end à Kisangani devant la presse locale. Pour y arriver, ce politicien cadre de l'UDPS propose 4 axes principaux. Ses propos ont été recueillis par Jacques Mokankole.
Le premier, c'est de dire, il faut veiller à ce que chaque entité de base ait son chef, mais un chef responsable. Un chef qui est à la hauteur de ses responsabilités. Pas facile dans le contexte territorial. Où vous avez des villages entiers, des groupements entiers qui sont contrôlés par les groupes armés. Et c'est ça, justement, le défi qu'il faut relever. Deuxième chose qu'il faut, c'est un travail qui va dans le sens de renouer les bonnes relations entre la population et l'État. Concrètement, cela veut dire que il faut que tous les services de l'État devraient être instruits de façon qu'ils travaillent dans l'esprit de gagner la confiance de la population, dans l'esprit de renouer cette relation perdue entre la population et l'État. Le troisième axe, il faut mettre en place au niveau de ces petites entités territoriales, ce que j'appelle des cellules permanentes de pacification. C'est-à-dire un groupe de gens, des notables, qui sont imprégnés de cet esprit de paix pour rechercher la paix dans leur petite entité. Quatrième chose, dernier axe, c'est rendre effective la justice de proximité. Le tribunal de paix répond à ces besoins.
Nous demandons au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de restaurer la paix au plateau de Bateke, dans les territoires de Kwamout, au Maïndombe, pour que nous puissions y retourner afin de prendre aussi part au processus électoral. Ce plaidoyer est de Mpakama Papano, capitale du village Betani, situé sur la route nationale numéro 17, est l'un des déplacés de Kwamout reçus à Bandundouville. Selon lui, la situation sécuritaire reste toujours préoccupante dans ces territoires, car les habitants de certains villages passent nuit dans la forêt pour le moment par peur des assaillants qui promettent d'attaquer leur village. C'est le cas par exemple du village Bisiala, situé à 8 km de son village Betani. On l'écoute au micro d'Irène Boma.
Je suis venu à la radio Okapi pour dénoncer que les troubles n'ont pas encore pris fin à Kwamout. Les assaillants sont toujours en train d'opérer. Ils envoient des lettres à Bisiala et la population de Bisiala passe nuit dans la forêt. La distance entre Bisiala et Betani est de 8 km. Ils veulent venir attaquer Bisiala. Ceux qui envoient des lettres sont des assaillants. Ils disent que comme vous ne voulez pas libérer ces villages, nous viendrons vous tuer tous. Donc nous ne pouvons pas retourner là-bas pour l'instant. Mais nous souffrons ici. Pour retourner là-bas, c'est dangereux. Rester aussi ici à Bandundu, c'est compliqué. Maintenant, qu'allons-nous faire? En outre, les autres compatriotes se sont fait enrôler, mais pas nous. Et nous ne savons pas si et seulement si nous allons vraiment nous faire enrôler. C'est pourquoi je demande au président de la République, Félix Tshisekedi, de restaurer la paix et la sécurité au plateau de Bateke pour que nous partions nous faire enrôler. Donc, nous n'allons pas voter. Ne sommes-nous pas des Congolais? C'est comme ça que nous lui demandons de faire revenir la paix pour que nous ayons nos cartes d'électeurs.
Comme annoncé au sommaire, la province du Sud-Ubangi attend du programme de développement local des 145 territoires, 43 infrastructures, dont 23 écoles primaires, 15 centres de santé et 4 bâtiments administratifs. C'est ce qu'a indiqué la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. C'était hier en marge du lancement officiel du programme de développement local des 145 territoires à Guémena par les gouverneurs de cette province, Jean-Claude Mabenze. Retrouvons notre envoyé spécial sur place à Guémena, Paul Matendo.
La cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles, CFF, a appelé la communauté locale et la société civile à veiller sur le déroulement des travaux, comme le dit Jean Chikuna, chargé des opérations de cette structure.
Je sollicite l'accompagnement des autorités portugaises administratives et coutumières, les honorables députés, les services de sécurité, ainsi que la société civile d'apporter leur appui, accompagnement et toutes les facilités administratives nécessaires pour la réalisation des travaux.
Pour sa part, Jacques Mopelé, coordonnateur de la société civile Sud-Ubangi, rassure que son organisation s'occupe déjà de la surveillance des travaux.
Nous, comme société civile, nous sommes l'œil de la population et l'œil de l'État. Nous surveillons les travaux de près et de loin concernant la situation que ça touche à sa fin.
Madame Nounou, elle, s'occupe de la restauration des ouvriers pendant les heures de service. C'est moi qui prépare à manger pour les travailleurs, dit-elle. Je ne le fais pas gratuitement, ils me payent. Les entrepreneurs ont 6 mois pour livrer les infrastructures au gouvernement, a indiqué la CFF. De la ville de Guimena, dans la province du Sud-Ubangi, Paul Matindo, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, près de 200 observateurs électoraux ont été formés à Kasumbalesa dans les Haut-Katanga par le comité de suivi des actions du chef de l'État, Ko-Ossas. Pendant 4 jours, soit du lundi au jeudi, ils ont appris plusieurs notions en rapport avec les rôles qui sont appelés à jouer dans les processus électoraux. Témoignage de Jean-Pierre Mutamba, l'un des participants au micro de Jean Gando.
Nous venons d'apprendre des choses très importantes, comment nous comporter du temps des élections. C'est-à-dire, on nous a appris les 3 phases électorales. Il y a la phase pré-électorale, la phase électorale et la phase post-électorale. En tant qu'observateur, on nous a appris comment nous comporter sur les lieux du centre. Nous devons être le premier au centre, tout au plus tard 7h30, pour pouvoir connaître l'heure à laquelle le premier votant pourra passer et le dernier votant. Donc nous avons appris beaucoup de choses jusqu'au niveau du dépouillement, comment nous devons être en possession des plis pour connaître le nombre des gens qui ont voté et le nombre des gens qui n'ont pas voté. En tout cas, cette formation nous a appris beaucoup. Même pour arriver au niveau du contentieux, nous devons savoir et avoir beaucoup de preuves qui nous permettront de pouvoir nous défendre devant les cours et tribunaux.
Notons que cette formation intervient après celles qui ont eu lieu à Kolwezi dans le Lualaba et à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. À l'école d'Étienne Tshisekedi, c'est le thème d'une retraite politique organisée par la plateforme politique et électorale Horizon 2023 ce dimanche 16 avril sur le site dénommé Chilombo situé à 15 km à l'ouest de Kinshasa, la capitale. D'après Dadi Chiswaka, coordonnateur national d'Horizon 2023, l'objectif était de permettre à la centaine de participants de bénéficier d'une formation sur les fondamentaux de la politique afin de mieux appréhender le processus électoral. Une formation à l'issue de laquelle chaque participant a reçu un brevet de participation. Le coordonnateur d'Horizon 2023 a par la même occasion annoncé pour le 20 mai prochain la sortie officielle de cette plateforme électorale. Les propos de Dadi Chiswaka sont recueillis ici par Pierre Elamenji.
Il était important, en tant qu'une structure politique qui se veut être en même temps une école et qui se veut être d'autre part une alternative pour le renouvellement de la classe politique, non seulement autour du président de la République, mais en République démocratique du Congo, nous avons pensé qu'il était important de lancer la première session de l'école à Horizon 2023 pour pouvoir fixer les cadres et hauts cadres de la plateforme sur les fondements politiques et la philosophie politique de Horizon 2023. À l'issue de ces séminaires de formation, nous voulons d'une part, amener les hauts cadres et cadres de comprendre que Horizon 2023 est une structure politique qui s'inscrit à court, à moyen et à long terme et qu'il faut s'y embarquer dans un bateau où on connaît la destination et d'autre part, à court terme, d'aller chercher ces sièges-là, aussi bien au niveau des législatives nationales et provinciales parce que Horizon 2023 ne voudrait pas faire de la figuration dans la prochaine majorité homogène et confortable que nous voulons pour le président de la République, mais voudrait plutôt être dans la construction de cette majorité.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, dans un communiqué publié ce dimanche, le gouverneur de la région du Nord informe que les détachements militaires et des volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée, basés non loin du village Aorema, à environ 15 km de la ville de Ouahiguya, a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés le samedi 15 avril 2023 aux environs de 16 heures. Le bilan provisoire fait état de 40 décédés parmi lesquels 6 militaires et 34 volontaires pour la défense de la patrie ainsi que des 33 blessés.
L'invité.
Depuis l'ouverture de l'année académique en cours à l'université de Kindu, seulement 40% sur l'avancement des cours et autres activités académiques sont signalés. Ceci a été révélé lors du premier conseil de cette université tenu du 11 au 14 avril. Ce premier conseil a été une occasion pour toutes les forces vives de cette université de faire un état des lieux de l'université de Kindu, en même temps faire une projection sur l'avenir. Pour en parler, notre invité, c'est le professeur Deogracias Kimenya Moussaïloa, recteur de l'université de Kindu. Il s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Professeur Deogracias Kimenya, bonjour.
Bonjour Florence.
Vous venez d'organiser le premier conseil de l'université de Kindu. Que peut-on retenir de ces conseils?
Ce qu'on peut retenir du conseil, c'est d'abord le conseil de l'université. C'est la plus grande structure ou le plus grand organe de l'institution. C'est cet organe-là qui chapeaute l'organisation de toute l'université dans tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Alors, nous nous sommes réunis pour étudier la marche de l'université et pour prévoir ce que sera l'avenir. Parce qu'une institution d'enseignement universitaire a une vie. C'est cette vie-là qui constitue l'objet de négociations entre les animateurs de l'institution. Nous sommes appelés à voir où nous sommes, où nous allons, quels sont les problèmes qui se posent à l'université et comment on peut les résoudre pour que nous atteignions notre objectif consistant à assurer la recherche, les enseignements ainsi que le service à la communauté.
Aujourd'hui, vous venez de passer au peigne fin la situation de l'université de Kindu. Quel est maintenant l'état de lieu de cette université?
L'état de lieu, c'est que d'abord, il faut dire qu'on n'a pas était au début. Notre année académique a commencé à l'université de Kindu de manière spéciale le 15 novembre 2022, mais surtout l'étendue de la République, le calendrier académique qui a été signé par le ministre commence l'année académique au 5 janvier. Donc nous avons eu une année à double vitesse, mais c'est aussi une des questions que nous avons résolues au sein de ce conseil-là. Nous avons harmonisé notre calendrier académique. Ce qui a été observé, nous avons remarqué que nous étions en retard sur le plan de l'avancement des activités académiques, dont les enseignements, la recherche et puis le service à la communauté. À ce jour, nous avons pris l'option d'harmoniser ce calendrier de manière à ce que nous soyons au-delà de 40%. Nous sommes à 40% sur l'avancement des cours et autres activités académiques. C'est que ce conseil-là nous donne maintenant l'occasion de revoir ce qui s'était fait avant et ce qui doit se faire maintenant pour harmoniser les activités.
Et qu'est-ce qui a fait à ce que vous soyez en retard alors que vous avez débuté avant?
Nous sommes en train de vous dire que la possession de nos fonctions académiques a eu lieu le 18 janvier. Donc il y a eu un comité qui nous a précédés. Nous n'avons pas encore fait même 80 jours de gestion de l'université de Kindu. Nous sommes là, ce retard nous l'avons constaté. Nous avons constaté que les enseignements ne fonctionnaient pas très bien. Les enseignants visiteurs qui sont tout à fait attendus à notre institution parce qu'on ne peut pas fonctionner sans professeurs. Ces professeurs, pour la majorité, n'appartiennent pas à notre université. C'est ça l'effort aussi au niveau du conseil à fournir pour produire les professeurs propres à l'université de Kindu. Ainsi, nous avons mis en place une batterie de réflexion pour que les professeurs visiteurs viennent nombreux. Nous avons donné un coup de pouce aux professeurs locaux, aux chefs de travaux qui s'occupent des enseignements des étudiants et maintenant les choses marchent normalement.
Lors de ces conseils, vous avez aussi élaboré une feuille de route qui vous permettra de bien travailler.
La feuille de route, c'est pour cette année. Elle va nous permettre de bien travailler parce que c'est ça le plan de gestion. Et cette feuille de route, elle est tout simplement d'application pour cette année académique. Parce que nous savons qu'il faut un plan stratégique de 5 ans pour la première journée. d'arrêt des travaux, nous avons marqué une pause et nous avons trouvé qu'il faut encore que la commission que nous avons instituée puisse continuer les travaux pour assurer le plan de ces 5 ans à venir, donc de 2023 à 2027.
Quel est le grand défi de l'université de Kindu?
C'est d'abord ce retard-là, parce que l'université a triple mission, les enseignements, la recherche, le service à la communauté. La recherche évolue mieux que les enseignements.
On peut croire que après ces conseils, tout va aller normalement.
C'est pourquoi nous avons mis en place cette feuille de route-là. Cette feuille de route, c'est un calendrier de travail. C'est une boussole qui nous permet de savoir à tout moment, chaque semaine, voilà ce que nous devons faire. Et nous devons être derrière cette feuille de route pour assurer son application. Je vous le garantis, dès cette période qui vient après les vacances de Pâques, nous allons assurer l'exécution de cette feuille de route.
Professeur de Classes Kiminia, merci.
Le recteur de l'université de Kindu, le professeur Deogracias Kimenya, était interrogé par Florence Kizalunga. Fidèles auditeurs de Radio Kapi, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal vespéral de ce dimanche. Il a été coordonné par Piero Elamenji et supervisé par Alain Rung. Grâce à Mzati Masanzi, c'est moi qui vous l'ai présenté. Vous pouvez les réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite du magazine Okapi Sport avec le coach Dieudonné Joseph Kabeyangalula.